vous parler d'un travail que j'ai fait dans la région où j'habite, les Cévennes, Causses et Cévennes, hein, pour ceux qui connaissent, et donc où j'ai travaillé sur les champignons et surtout les relations entre les humains de ce petit coin de France et leurs champignons. Donc en fait, au début de cette histoire-là, moi je suis plutôt ethnobotaniste, je m'intéresse aux plantes depuis longtemps, et je fais des enquêtes, j'écris des petites choses, je fais des animations, disons, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qui peut se faire par ici autour de Mersin, ce qui se passe là-bas. Et voilà, j'ai été amenée à faire une enquête vraiment dans un tout petit coin. Le but du jeu, c'était de travailler sur le foyer rural de ma commune. Vous voyez, à l'échelle d'une commune ou deux ou trois, bon, un petit peu autour. Et ce projet, c'était vraiment un projet qui avait surtout pour objectif de faire du lien, de faire parler beaucoup les anciens, de les amener à transmettre des choses. Et moi, je travaillais plutôt sur qu'est-ce qu'ils avaient à raconter, quels souvenirs ils avaient, quelle mémoire ils avaient des cueillettes. Mais évidemment, dans mon esprit, les cueillettes, c'était les plantes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait un certain nombre d'entretiens, d'enquêtes. Il y avait des tas de choses très intéressantes, mais quand même une sorte de mémoire un peu brouillée, un peu effacée. Et les gens parlaient beaucoup au passé, même si en Cévennes, il se passe des choses très actuelles aujourd'hui autour des plantes. Mais là, on était plutôt sur ce qui se passait avant, et c'était un peu oublié, quoi, quand même, en grande partie. Et par contre, donc souvent on me parlait de la grand-mère qui faisait ramasser des plantes, il se souvenait plus toujours à quoi ça servait, enfin voilà. Et puis, de plus en plus, les gens me parlaient des champignons, on parlait de cueillettes après tout, et là par contre, ils parlaient vraiment au présent, je voyais que les regards étaient plus pétillants, et puis j'enregistrais. J'aurais écouté mes enregistrements, j'essayais de classer un peu tout ce que j'apprenais par ce qu'on me racontait. Et puis, ben, à un moment donné, il y avait tellement de choses autour des champignons que j'ai dit, d'accord, on va aller de ce côté-là. Et moi, j'y connaissais pas vraiment grand-chose. Je suis plutôt botaniste que mycologue. Mais bon, je me suis, on peut dire, prise au jeu, et puis de fil en aiguille, ben maintenant, là, j'ai fait le stage de mycologie la semaine dernière ici à Mersin. Voilà, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, et disons voilà, c'est un sujet, je peux dire, qui s'est vraiment un peu imposé à moi. Et donc, ça a donné un livre s'appelle Les champignons, une cueillette de saveurs et de savoirs. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas par chez nous, voilà un peu le cadre paysager et naturel de l'enquête. Donc, c'est un territoire qui est très diversifié, où on a des causses calcaires, avec donc des paysages particuliers, une flore particulière et des champignons particuliers aussi. Et puis le côté Cévennes avec des vallées schisteuses qui donnent des biotopes très différents, des châtaigneraies, on a des forêts très, très diverses, on a évidemment des landes, des prairies, bref, vraiment un territoire qui se prête bien à un tel travail. Et puis donc j'ai interrogé un certain nombre de gens dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, une trentaine de personnes de manière assez approfondie, que je suis retournée voir souvent plusieurs fois, qui d'abord chez eux, puis après sur le terrain, chaque fois que c'était possible, parce que évidemment c'est là qu'on va découvrir le plus de choses dans l'action. Voilà, et donc ces gens-là, y avait évidemment des ramasseurs et des ramasseuses comme vous et moi, de divers âges, de diverses origines. Par exemple, il y avait parmi eux un jeune Roumain qui se trouvait vivre là à cette période-là et qui forcément, lui, avait un regard très, très différent et très intéressant au regard de ce que m'apprenaient les locaux. Sinon, j'ai interrogé un restaurateur qui, lui, avait beaucoup de choses à raconter sur la manière de transformer. Un producteur, quelqu'un dont je parlerai un peu, qui fait pousser des champignons. Un garde du parc, puisqu'on est en zone parc national des Cévennes, donc qui apporte un autre regard plus sur le côté biodiversité. Un collecteur, quelqu'un qui avait passé une partie de sa vie professionnelle à acheter les champignons des ramasseurs pour les revendre. Voilà, donc une diversité de rapports aux champignons. Alors, avant de plonger dans les résultats de ce travail, je vous propose un petit préambule d'ethnomycologie qui nous apportera un petit peu des éclairages sur ce que moi j'ai pu entendre et rencontrer sur mon terrain. Sans doute parmi vous, il y en a qui connaissent un peu cette histoire. C'est une histoire singulière et amusante, qui est l'histoire de la naissance de l'ethnomycologie, donc de l'étude des relations entre les humains et les champignons. Ce monsieur et cette dame, donc, sont des Américains qui se sont mariés dans les années 20 aux États-Unis. C'est les époux Wasson. Et donc ils se sont mariés, ils sont partis en voyage de noces dans les montagnes Catskill aux États-Unis. Et là, ils ont vécu un moment qui aurait presque pu les séparer, semble-t-il. Ils se sont trouvés devant une clairière, en se promenant tous les deux, devant une clairière avec des champignons, mais plein de champignons magnifiques. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que Madame Wasson, là, je vais vous lire comment ils ont raconté eux-mêmes ce moment déclencheur de toute une histoire. Monsieur Wasson dit: elle désignait chaque espèce par un nom russe plein d'affection. J'ai oublié de vous dire, Madame Wasson est d'origine russe, alors que Monsieur Wasson est anglo-saxon, white, protestant, enfin, de bon teint. Donc, elle désignait chaque espèce par un nom russe plein d'affection, caressait les chapeaux, respirait leur parfum de terre. Comme tout bon anglo-saxon, je ne savais rien du monde fongique et j'étais persuadée que le moins j'en savais sur ces excroissances putrides et perfides, le mieux je m'en portais. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut penser qu'a vu Madame Wasson. C'est ce type d'image qui lui est apparue. Vous voyez, il y a de la couleur et c'est plutôt joyeux. Il y a des petits êtres enchantés. Alors que Robert Gordon, lui, voilà peut-être ce qu'il a dû voir. Hein. Ça, c'est un tableau flamand du XVIIe qui montre les champignons d'une autre manière, hein, qui est un tout autre regard. Donc, vous voyez, c'est deux regards contrastés. Ils ont eu l'occasion de les confronter ce jour-là. Et de là a suivi une longue, longue quête de plusieurs dizaines d'années, qui s'en est suivie pour eux, pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette différence de perception des champignons. Alors, il se trouve qu'il y avait un ethnologue que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui s'est intéressé aux écrits des époux Wasson et qui a apporté... Eux, ils n'étaient pas du tout ethnologues, hein, ils n'avaient pas vraiment la légitimité, mais ils ont su s'entourer de tout un tas de grands savants de l'époque. Et donc, il se trouve que Lévi-Strauss, il s'est bien intéressé à cette affaire-là. Il a écrit sur l'ethnomycologie. Il a un peu intégré ça, cette réflexion à son œuvre ethnologique. Et voilà ce qu'il nous dit de l'importance de cette remarque et de ces travaux des époux Wasson. À partir de cette remarque, en apparence futile, les deux époux commencèrent une longue quête qui leur révéla la nature affective des réactions observables chez les divers peuples ou groupes culturels vis-à-vis des champignons. Elles vont d'une répulsion véritable de la part des peuples germaniques ou celtiques jusqu'à une ferveur exaltée chez les Slaves et dans la majeure partie du bassin méditerranéen. D'où la distinction formulée pour la première fois par M. et Mme Wasson entre peuple mycophile et peuple mycophobe. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les hypothèses qu'ils ont développées suite à cette très longue quête et enquête qu'ils ont menée, mais pour résumer, ils sont arrivés à l'hypothèse que ces passions positives ou négatives selon les cas viendraient de une très vieille histoire. Je vais reprendre encore les mots de Lévi-Strauss, qu'il dit mieux que moi, je pense. L'hypothèse de nos auteurs est qu'au temps préhistorique ou proto-historique, l'usage des champignons hallucinogènes a été connu de l'humanité entière et que le tabou des champignons, d'un côté, ou l'intérêt passionnel éprouvé à leur égard, sont une survivance d'un très ancien culte. Voilà. Donc, ce serait l'usage entéogène, donc pour relationner avec les dieux, de certains champignons depuis les premiers temps de l'humanité, qui en aurait fait des êtres sacrés. Il y a eu pas mal d'éléments qui sont venus corroborer cette thèse, qui plus tard, avec l'histoire des religions, aurait été diabolisée dans certains contextes, notamment liés au christianisme. Voilà, donc vous avez deux illustrations de ces anciens cultes qui auraient perduré dans certaines conditions. La manitou mouche dans les peuples, chez les peuples sibériens notamment, mais aussi en Amérique du Nord, il y a quelques usages qui ont été aussi notés. Et puis, à droite, vous avez la fameuse Maria Sabina, qui était donc une curandera du Mexique et qui utilisait encore dans les années 50 les psilocybes pour des rituels de guérison. Voilà. Donc, point de rituel de guérison en Cévennes, hein, mais quand même cette histoire-là que j'ai découverte chemin faisant en m'intéressant aux relations entre les hommes et les champignons, on va voir que quand même, ça, quelque part, sans doute, ça agit sur notre manière, notre attitude à nous, ce que nous font les champignons quand on les rencontre dans les bois ou dans les prés. Donc, les cévenols, du coup, mycophiles ou mycophobes ? Évidemment, on se pose cette question-là hier. Pierre me demandait, alors les Français, ils sont mycophiles ou mycophobes ? Et en fait, bon, il n'y a pas une réponse très très claire là-dessus. Je peux juste vous raconter une anecdote sur ce côté mycophile, mycophobe. Au moment où moi je m'intéressais à tout ça, je me suis retrouvée avec des amis dans une forêt en train de marcher. On était une trentaine, c'était pour une grosse fête. Et on se retrouve devant dans une forêt comme ça avec des hêtres et donc avec un hêtre couché par terre plein de pleurotes. Et moi, je commençais à être gagnée par tout ça, je commençais à mieux connaître et puis j'ai été un peu comme Valentina dans la scène, quoi. Je me suis jetée sur les pleurotes, j'ai commencé à les admirer et puis à les ramasser. Il y en a d'autres qui se sont joints à moi en disant « Waouh, on va bien manger ce soir ». Et puis les autres, « Que tu es comme ça ? Non, mais tu ne vas pas nous faire manger ça, tu es sûr de ce que c'est ?» Voilà. Donc on a vécu une scène qui, quelque part, ressemblait à cette fameuse scène des Wasson. Et donc je leur ai raconté cette histoire-là. Et le soir, la plupart ont mangé les pleurotes. Hein. Mais tout ça pour vous dire que, ben voilà, on était tous français, mais on avait vraiment les deux. Et c'était des clans, quoi. Vraiment, il y avait... Donc voilà, la réponse, elle n'est pas forcément évidente. Globalement, du côté, c'est ce que dit Lévi-Strauss aussi, du côté des Provençaux, des Catalans, c'est beaucoup plus micophile. Du côté du nord de la France, plus c'est côté ouest et celte, plus c'est mycophobe, mais après, il y a des tas de variantes. Toujours est-il que, évidemment, je me suis posé la question, et les Cévenoles, alors ? Alors, ben, encore une fois, Lévi-Strauss a écrit quelque chose d'assez intéressant et qui collait assez bien à ce que j'ai pu, moi, observer, dont je vais vous parler après. Il se trouve que, coup de chance, ses parents avaient une maison à Valrhogue, donc du côté de l'Aigoual, qui est dans les Cévennes encore. Et donc, il y passait ses vacances depuis des années et des années. Évidemment, quand il s'est intéressé aux champignons, il a observé, lui aussi, qu'est-ce qui se passait pour les paysans du coin. Et voilà ce qu'il dit. Les paysans des Cévennes méridionales, où je vais en vacances depuis bientôt 30 ans, éprouvent une passion immodérée pour certaines variétés de cèpes. Ceux dont la chair est parfaitement blanche et qui ne bleuissent pas. Qu'on annonce leur sortie dans la montagne, chacun abandonne sa boutique, son atelier, son verger ou son champ pour se livrer à la précieuse collecte, qui a presque le caractère d'un rituel et à laquelle se rattache toute une mythologie. En revanche, les autres variétés de cèpes, même inoffensive, et tous les autres champignons comestibles sont tenus pour des poisons mortels. Les Cévenols se conduisent donc comme des Slaves sous un rapport et comme des Anglo-Saxons sous un autre. Alors, bon, il exagère un tout petit peu hein, quand il dit qu'il n'y a que les cèpes et aucun autre. Mais quand même, moi, dans ce que j'ai pu observer... Surtout des plus anciens, des personnes qui ont été moins contaminées par la mycophilie de gens venus d'ailleurs. Mais effectivement, il y a quand même peu de champignons ramassés traditionnellement par les gens. Donc, côté mycophobie, hein, j'ai un peu trié dans tout ce que j'ai pu entendre. Qu'est-ce que j'ai entendu de mycophobe dans ce qu'on m'a raconté ? Alors voilà, à gauche, là, vous avez René qui dit « Ici, nous autres, c'est simple, on ramassait que les cèpes, quelques oranges, quand on en trouvait, et quelques girolles. C'est tout. Les autres, on y donnait un coup de pied. » Quant au monsieur qui est à droite, qui est aussi un René, qui lui était docteur, qui a plus voyagé, qui a beaucoup élargi, lui, sa connaissance des champignons et des cueillettes, qui était un peu mycologue, lui dit « Un jour, j'ai offert un plat de champignons à un paysan du coin. Dedans, il y avait un cèpe royal. » Vous avez l'image du cèpe royal, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un super bon cèpe. Cette année, il y a eu une sortie incroyable il y a un mois. C'est un bolet un peu rare, quand même. Et donc, il avait offert ça comme un beau cadeau à un paysan. Et il m'a raconté, le paysan, on ne l'a pas mangé. Qu'est-ce que c'est une bombe cabre ? Et ils l'ont jeté. Et alors, bombe cabre, c'est un des noms qu'on donne aux bolets qui bleuissent. Et un autre nom, et qu'on trouve dans le dictionnaire de languedocien du 19e, l'autre nom, c'est massa parent. Donc les deux, ça veut dire un peu la même chose. Dans un cas, il tue les chèvres et dans l'autre, les parents. Mais donc, c'est le nom donné au bolet bleuissant. Et donc, tout ce qui ne ressemble pas vraiment au cèpe à chair blanche et bien dodue, on jette. Et franchement, il rate des bonnes choses. Je peux vous dire, celui-là, il est délicieux. Toujours côté mycophobie. Oui. Alors, là, vous avez une image qui a été prise sur le COS. Vous connaissez ce phénomène, ce qu'on appelle des rondes sorcières. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Eh bien, plusieurs personnes m'ont raconté qu'il n'y a pas longtemps, quand ils étaient petits, donc il y a quelques dizaines d'années, hein, donc encore il n'y a pas si longtemps, ces cercles, c'était des traces des sorcières qui dansaient nues et embrassaient le derrière du diable. Il y a plusieurs personnes qui... Sur le cause, plutôt, là. Ça, c'était des croyances un peu cosnardes. Et il y avait des peurs. On appelait ça des peurs, d'ailleurs. Ces endroits un peu particuliers où il se passait des choses pas claires les nuits de pleine lune. On pouvait donc ramasser les champignons qui poussaient sur ces ronces et des mousserons de la Saint-Georges, des pieds bleus, des rosées. Il y a pas mal d'espèces de champignons qui poussent de cette manière-là sur ces ronces. Mais l'intérieur était considéré comme une zone périlleuse dans laquelle il ne fallait pas pénétrer. Voilà. Donc on les mangeait quand même, hein, mais donc vous voyez, derrière, il y a une petite peur qui est liée à des très vieilles légendes. Et figurez-vous que peut-être il y en a qui s'intéressent un peu aux vieilles histoires et aux contes parmi vous, en tout cas c'est mon cas. Et j'ai trouvé un conte celte, en fait il y a des tas de versions de contes celtes, notamment un qui raconte deux frères qui rentrent chez eux un soir à la tombée de la nuit avec leur bœuf après avoir labouré. Et à un moment, il y a un des deux frères qui dit « Attends, j'entends une musique là ». Et l'autre frère, il dit « Non, mais ça va pas, moi j'entends rien, allez, on rentre, il va faire nuit ». Et l'autre, il dit « Non, mais attends, je vais danser un peu, il y a une musique, il y a un bal, non, rentre, c'est pas grave, je rentrerai après ». Et le frère, il est resté danser avec les petits êtres qui dansaient autour de ses ronds. Et le lendemain, quand son frère est revenu le chercher, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas rentré à la maison, eh ben, il l'a trouvé à moitié fou, quoi. Il a fini par le ramener à la maison, mais dans l'histoire, le frère finit par mourir de folie, quoi. Voilà. Donc vous voyez que derrière cette histoire que des vieux cosnards, on leur a raconté quand ils étaient petits, il y a probablement ce genre de légende qui n'est pas si loin que ça, quoi. Donc voilà un des éléments, une des traces de mycophobie. Alors toujours des traces de mycophobie. Il y a plusieurs fois, j'ai entendu des discours qui parlaient de tentateurs, que les champignons étaient des tentateurs. Quelqu'un me dit, quand on voit une tue-mouche, on dit « elle est trop jolie pour être bonne » et on lui donne, encore une fois, le sacrement du pied. L'autre, c'est le jeune roumain, Stéphane. Donc lui, il est roumain, hein, c'est pas un cévenole pur souche, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut dire dans son pays là-dessus. Ils sont plutôt mycophiles chez eux, pourtant. Hein. Mais quand même, il me dit, on dit que chez moi que quand quelque chose est trop joli, qui t'attire comme ça, c'est fait exprès. Il est mauvais. Surtout les colorés, les très très colorés. Voilà, donc il y a une image un petit peu diabolique, hein, de tentateur. Et puis ben, derrière ce côté diabolique, il y a aussi le lien au serpent, qui est, plusieurs personnes aussi parlent du lien avec les serpents. On nous disait de faire attention, hein, c'était quand même impressionnant, c'est vrai, ça allait de pair avec les champignons, les serpents. Quand tu partais aux champignons, tu devais mettre des chaussettes hautes, des bottes, il fallait faire du bruit avec les bâtons, chanter dans les bois pour éloigner les vipères. Tout le monde ne dit pas ça, hein, mais il y a quand même un petit peu des restes aussi de peur liée au serpent. Et alors, quand on regarde dans des textes fort anciens, Pline l'Ancien disait, on voit que ça vient sans doute de très loin, cette histoire de lien au serpent, voilà ce qu'il dit sur les champignons vénéneux. D'autres choses les rendent vénéneux. Par exemple, croître auprès du trou d'un serpent et être frappé de son haleine lorsqu'il commence à s'ouvrir. Disposés à prendre le venin des reptiles par leur puissante affinité pour les poisons. En conséquence, il faudra se tenir sur ses gardes tant que les serpents seront dehors. J'ai entendu des gens à propos des serpents dire, il y a des vieilles légendes autour de ça aussi, les serpents, ils aspirent tout le poison de la terre à eux. Eh ben, il y a pas longtemps, une femme des Gorges du Tarn m'a dit nous, dans ma famille, on mangeait pas trop de champignons, juste deux, trois espèces, parce que, en fait, elle n'osait pas vraiment me le dire, mais elle dit mais en fait, les champignons, ça aspire tout le mauvais de la terre. Donc, il y a vraiment une affinité entre ces deux, les serpents et les champignons. Voilà, donc tout ça, c'est des vieux fonds. Hein. C'est pas, je ne peux pas dire que tout le monde m'a parlé de cette manière-là, mais il y avait quand même pas mal de traces de ça. Donc là, je vous remets un de ces tableaux de maître flamand du 18e qui montre effectivement l'affinité entre les champignons et les serpents. Vous voyez là, ils sont souvent associés. Alors voilà pour le côté mycophobe. Maintenant, on va quand même regarder le côté mycophile. Parce qu'effectivement, les cévenoles, ils ne sont pas mycophiles, ils ne sont pas mycophobes, ils sont les deux, comme le disait M. Lévi-Strauss. Donc, côté mycophile, ben, alors là, j'ai envie de vous poser une question, même si vous n'êtes pas tous cévenoles ici, mais je pense qu'il y a des choses qui sont partagées, évidemment, par bien d'autres, dans bien d'autres régions. Mais qu'est-ce qui les fait courir, les mycophiles, dans les bois? Alors, peut-être vous en êtes, ou vous en êtes partiellement, je ne sais pas. Quels sont les... Voilà, qu'est-ce qui... C'est quoi qui nous attire, ou dans les bois ou dans les prés, hein. Il n'y a pas que les bois, mais c'est quoi le... Alors, la gastronomie, la cueillette, d'accord, la chasse au trésor, c'est quelque chose de rare et de pas permanent, ouais. C'est mystérieux. Ouais. Il y a le côté chasse au trésor, mais aussi découverte, compréhension de ce qui est présent dans la nature. Ouais. Ah oui. Ça rejoint aussi la chasse au trésor, mais aussi avec... ouais. Ouais. Et la transmission, ouais. Et le fait qu'on est dans une certaine chaîne de transmission. Alors, quand on n'est pas natif, c'est différent parce qu'on on trouve soi-même ou bien des voisins nous reconnaissent assez pour nous montrer des coins. Toi, tu as dû vivre ça. Ouais. C'est vrai. Je donnerai un petit exemple, mais oui. Bon, alors là, moi, on vous parle des cévenoles et des cosnards, mais ça, c'est quelque chose qui est vrai dans plein d'autres endroits. On est bien d'accord. Là, bon, on est parti d'un cas de figure, mais voilà. Donc, vous avez dit quasiment toutes les catégories de raisons qui font courir les chercheurs de champignons que j'ai pu repérer. Plaisir de la connaissance, de la compréhension, ça c'est un vrai ressort, la quête, le jeu, la chasse au trésor, le côté se retrouver seul, lien à la nature, goût du sauvage, et c'est vraiment quelque chose de très physique, et la gastronomie qui a été dit presque en premier. Et alors quelque chose que vous n'avez pas dit, et qui est pourtant drôlement important, en tout cas dans les témoignages que j'ai reçus, c'est les ressources économiques. Le fait de, quand on cueille, ben on a de la, voilà, on a des choses à manger ou à vendre, ou, et ben mine de rien. Donc je vais commencer par développer un peu ce ressort-là. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire qui est pas un conte qui se dit en Cévennes, mais vous verrez qu'il résonne assez bien avec ce qu'on m'a raconté dans les Cévennes sur ce côté-là. C'est un tout petit conte. Ça va vous changer un peu de registre. C'est un conte qui vient de Bohême, de Tchéquie, et qui dit que, eh ben, un beau jour, comme ça, il y a Jésus et Saint-Pierre qui se retrouvent sur la terre, comme ils en avaient la coutume, pour aller voir un peu comment les choses se passaient du côté des humains et quels usages ils faisaient de tous les dons de la création qu'ils avaient reçus. Et alors, ils arrivent devant un petit village, et ils entendent de la musique, il y a une fête. Alors, Saint-Pierre, qui est, comme tout le monde le sait, un bon gros gourmand, il dit, formidable, il y a une fête, on va aller frapper à la porte et on va aller goûter un peu à ce qu'il mange. Et Jésus le regarde, lui dit, non, mais t'as vu, la maison où on va rentrer, c'est une maison pauvre. Donc, Saint-Pierre, tu ne prends rien de ce qu'on te propose. Tu les connais, ces gens-là, ils te donneraient tout alors qu'ils n'ont rien. Donc, on va rentrer, on va participer, mais on ne prend rien. D'accord, Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a dit, pas le choix, il a dit d'accord. Et donc, ils sont rentrés, ils ont fait la fête, ils ont passé un bon moment. Et puis, au moment de repartir, la maîtresse de maison a gentiment offert un beau bout de pain aux deux vieillards qui repartaient sur les chemins. Et Jésus a décliné, Saint-Pierre a décliné, mais discrètement quand même, il en a pris un petit bout sans que Jésus le voie et il l'a mis dans sa poche. Et les voilà repartis tous les deux. Et ils marchent sur le chemin, Jésus est devant, Saint-Pierre derrière, il commence à avoir faim. Et chaque fois qu'il voit que Jésus est perdu dans ses pensées, qu'il ne va pas le voir, il prend un petit morceau de pain et il le mâchouille. Et à ce moment-là, Jésus se retourne. Alors il recrache pour pas que ça se voit qu'il est en train de mâcher son bout de pain. Et puis ça arrive une fois, deux fois, trois fois, enfin jusqu'à ce qu'il ait fini son morceau de pain. Et à peine il vient de recracher le dernier morceau de pain qu'il n'a vraiment pas pu manger du tout, le pauvre. À ce moment-là, Jésus se retourne, vient voir Saint-Pierre et lui dit « Eh bien, maintenant, tu vas retourner sur tes pas et ramasser tout ce que tu as laissé sur le chemin. » Et Saint-Pierre retourne, et puis il revient avec « Oh ben, je comprends vraiment pas, regarde, c'était pas là tout à l'heure, c'est pas du pain, c'est des drôles de choses, là, ça a l'air de pouvoir se manger. » Et là, Jésus lui dit « Eh oui, c'est une nouvelle créature que je viens de créer pour les pauvres. Puisque le pain que tu as pris aux pauvres leur a donné naissance, eh bien les champignons seront pour nourrir les pauvres. » Et on dit là-bas en Tchéquie que si les champignons ne nourrissent pas tant que ça, on a souvent un peu faim, peu de temps après avoir mangé un plat de champignons, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Eh bien, c'est parce que le pauvre Saint-Pierre, il n'avait pas réussi à se remplir le ventre avec son pain. Voilà. Donc voilà un petit conte qui nous dit quelque chose sur la relation entre les humains et les champignons. Et si je vous le raconte, là, vous voyez un... Je trouvais que la photo allait bien avec cette histoire, avec ces gros clitocybes géants qui forment justement un grand rond de sorcière, mais comme un chemin de champignons, comme ça. Et ça, c'est à Bar des Cévennes, cette photo. Et alors, voilà une phrase que m'a dit une dame, qui est une des personnes qui m'a appris beaucoup de choses autour des champignons, Fernande. Et elle tenait beaucoup à dire ça. C'est le bon Dieu qui fait sortir les champignons. Ce n'est pas une semence cultivée par le propriétaire. Et c'est pour ça que traditionnellement, même si maintenant les choses ont un peu changé depuis qu'il y a des voitures qui permettent à des gens venus de loin de venir ramasser les champignons un petit peu partout. Mais donc à l'époque où elle était petite, eh ben, tout le monde ramassait autour du village, autour du hameau. Et on considérait que c'était pour tout le monde et qu'il n'y avait pas besoin d'être propriétaire pour ramasser des champignons à un endroit. C'était le premier levé qui trouvait les champignons et qui pouvait les emporter. Et donc, cette petite phrase, je trouve, elle résonne assez bien avec ce conte. Alors, sur cet aspect, ben justement, c'est pour les pauvres. En cherchant un petit peu dans la littérature du 19e, notamment donc deux ouvrages parmi les premiers ouvrages de mycologie. Vous avez donc Louis Planchon, peut-être certains connaissent, un botaniste et mycologue du 19e, qui nous dit « Pour les classes pauvres, les champignons sont une très grande ressource. En Russie, en Allemagne, en Italie et même en France, dans les Cévennes, par exemple, on en consomme des quantités considérables et les années de sécheresse sont plus dures que les autres pour les paysans privés d'une nourriture abondante, fortifiante et gratuite. Donc vous voyez que notre histoire tchèque. Et puis un autre, Jules de Seine, à peu près dans les mêmes époques, également botaniste et mycologue, nous dit quelque chose de plus précis, et vous verrez, c'est intéressant. À Gennolac, sur le mont Lozère, plusieurs familles recueillent l'amanite tumouche et s'en nourrissent, en ayant grand soin de le faire bouillir longtemps et de jeter l'eau. Elles utilisent ainsi les quantités considérables de cet agarique que produisent les bois de hêtre de la Lozère et qui ne leur sont pas disputés. On comprend tout ce qu'un oubli peut avoir de dangereux dans ce genre de manipulation culinaire. Donc là, ils prenaient de la manite tumouche, pas du tout pour leur effet entéogène, mais voilà, famille pauvre qui, à des moments, pouvait se nourrir comme ça. Alors, il se trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est valable pour d'autres régions, mais beaucoup des anciens qui me parlent de leur manière d'accommoder les champignons blanchissent presque tous les champignons sauf les cèpes. Donc, ils les passent à l'eau bouillante et c'est une sorte de mode de détoxification, de précaution. Par exemple, ce qu'on appelle les soucarelles, donc les champignons de souche, qui la plupart du temps chez nous, c'est les armillaires couleur de miel, ben, ils sont toujours blanchis au préalable. Voilà. Et dernière anecdote par rapport à ce côté, ben, on est pauvre et on prend ce qu'on trouve. Une habitante de mon village que moi, je n'ai pas connue, parce qu'elle était morte quand je suis arrivée, mais qu'une autre personne m'a raconté ce qu'elle lui avait dit. Et elle lui avait dit, pendant la guerre, des fois, on était obligé de manger des champignons pour survivre. Pour être sûr de ne pas mourir d'un champignon, tu écartes la lèvre inférieure, tu prends un bout de champignon, tu le frottes à l'intérieur de la lèvre et tu attends une heure. Si ça ne fait pas de réaction, tu peux le manger. Bon. Je pense que si c'était une amanite phalloïde, je ne suis pas sûre que ça marche, son truc. Enfin, si, peut-être que ça fait réagir aussi, mais en tout cas, voilà. Ils étaient réduits à quand même des expériences un peu dangereuses. Voilà, donc ça c'est pour le côté ressources, pour les sans-ressources justement. Après vous avez le côté l'argent des champignons, à partir du moment où on peut les ramasser en quantité et les vendre, je crois que dans la salle il y a quelqu'un qui me disait que des fois il en ramassait combien, 40 kilos. Donc ça, bon, il y a d'autres régions que la nôtre hein, où ça a pu se produire, mais à partir du moment où les cèpes en particulier, mais pas que, ont été fort appréciés dans la cuisine bourgeoise de la ville, bon, bah, à partir de ce moment-là, les régions comme la nôtre où il y avait des grandes forêts et des conditions favorables, évidemment, ça a été une ressource économique importante. Dans un premier temps, on les faisait sécher. Beaucoup de gens m'ont expliqué comment ils faisaient sécher. Des fois, il y avait quelqu'un qui a dit « Ah, nous, les cèpes, on mettait des pruneliers dans le grenier. » Et puis, on accrochait les morceaux de cèpes tranchés. Et dans le grenier, ça séchait très, très bien parce que c'est ventilé et la partie la plus chaude. Voilà. Donc, ils avaient des tas d'astuces pour faire sécher les champignons, même quand il ne faisait pas beau dehors. Et puis après, c'était vendu dans les foires. Et puis, ça partait vers la ville. Et puis après, bon, il y a eu les transports, etc. Et donc, les champignons vendus en frais. Et donc, ce monsieur qui a connu un peu toutes ces époques, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais je l'ai rencontré il y a quelques années. Et donc, lui, c'était quelqu'un de pas très riche et pour qui ça a été vraiment, tout au long de sa vie, une manne importante. Et alors, quand il en parlait sur quelle était l'importance de ce côté économique, il me disait, on pouvait acheter des trucs, acheter du matériel avec l'argent des champignons. On ne pouvait pas acheter des tonnes, quand même. Enfin, on pouvait acheter pas mal, quand même. Voilà, c'est le côté aussi un peu caché de cette économie-là. Et c'est souvent pour voilà, arrondir les mois, c'est un des termes que j'ai pu entendre. Et puis, dernier aspect de ce côté économique, donc j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Charles, qui vient de Hollande. et qui s'est installé dans les Cévennes. Il ne savait pas au départ s'il allait faire des petits fruits, etc. Puis finalement, il s'est mis à cultiver des champignons sur des bio d'abord. Et puis après, il a fait des substrats dans des sachets plastiques de shiitake, de pleurotes. Et donc, son exploitation agricole, elle fonctionne avec plein de petites choses, comme souvent dans les Cévennes. Hein. Il a aussi quelques brebis. Mais c'est quand même basé sur la production de champignons. Il y a des bonnes années, il y a des années plus difficiles. C'est pas un métier facile, il me le dit souvent. Une fois, je lui ai demandé, alors, qu'est-ce qui les fait pousser, tes champignons ? Il m'a dit, l'obstination, la persévérance, l'audace d'expérimenter, une obsession, en fait. Et c'est un passionné qui expérimente tous les jours. Et donc, maintenant, il produit aussi de la pleurote du panicot, pour ceux qui connaissent, j'en parlerai un tout petit peu, les oreillettes. De l'hérissium, qui est un champignon médicinal et délicieux en même temps. Et voilà, donc il y a vraiment matière à innovation, à expérimentation. Et pas forcément à devenir très riche, mais en tout cas à vivre de cette passion-là, quoi. Voilà pour ce qui est des ressources économiques. Donc, vous voyez, j'aurais pas le temps d'aller aussi loin dans chacun des sous-thèmes, mais donc on va parler aussi un petit peu du plaisir de la connaissance. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré évidemment chez le mycologue que j'ai interrogé. C'est un mycologue local qui vit la moitié du temps dans la plaine, la moitié du temps dans les Cévennes, et c'est dans les Cévennes qu'il trouve la plus grande diversité de champignons qu'il a étudié une bonne partie de sa vie. Et donc, voilà ce qu'il me dit sur qu'est-ce qui le fait, qu'est-ce qui le meut comme ça depuis si longtemps dans la quête de la connaissance des champignons. Je crois que finalement, c'est une quête intellectuelle, élucider des mystères. Quelqu'un a parlé de mystères. Et ça m'a d'autant plus intéressée que c'est un peu compliqué. Je crois que pour les mycologues, la complexité fait partie de la passion. Essayer de comprendre un monde a priori incompréhensible fait partie du challenge. Bon, après, lui, il aime bien les manger aussi. Tous les mycologues ne sont pas mycophages, mais il fait partie des mycologues mycophages. Et il me rappelle, comme le font la plupart des mycologues, Guillaume Essartier, qui animait le stage la semaine dernière, a fait référence à ça aussi. Ce bolet qui bleuit, donc c'est un massaparent ou un bombe cabre, on l'appelle le bolet à pied rouge et on l'appelle aussi la récompense du mycologue. Et celui qui fait l'effort d'apprendre à connaître mieux, il peut élargir largement sa quête. Donc faire un peu de mycologie, cette quête de connaissances-là, conduit à d'autres plaisirs qui sont plus de l'ordre de la gastronomie. Et donc, pour toujours sur la quête de la connaissance, ça, je pense que vous devez être au courant que les champignons ne sont plus des végétaux. Hein. Ils ont un règne à part, rien que pour eux, qui s'appelle... Moi, quand j'ai fait mes études d'écologie il y a 40 ans, c'était encore des végétaux, dans mes cours, en tout cas, même si d'autres commençaient à savoir que ce n'était pas le cas. Et donc, Christian Louis, toujours mon mycologue, voilà, il me commente cette nouvelle compréhension qu'on a de l'évolution de la vie où les végétaux, c'est le règne en vert, là en bas, et puis les champignons, vous voyez, ils sont ailleurs sur cet arbre et plus proches des animaux. Et alors voilà, justement, il me dit, c'est un règne à part quand même. À partir du tronc commun de la vie, il y a eu une branche qui est partie vers les végétaux, une qui est partie vers les animaux. Celle des animaux s'est ramifiée et a donné les champignons. Donc les champignons sont plus proches des animaux. Cela a été pressenti depuis longtemps par des biologistes, car la membrane des champignons est faite de chitine. Or la chitine est un composé spécifique de la membrane des insectes et des crustacés. Donc voilà, ça fait partie. C'est vrai que tout... toutes les découvertes actuelles et la conférence qu'on va avoir tout à l'heure avec Marc-André Sellos, ça fait partie du grand plaisir qui nous mène vers les champignons, c'est évident. Cette compréhension de plus en plus grande et pour laquelle on sent bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir et à comprendre. Voilà, donc j'arrête là pour cette partie de connaissances plutôt scientifiques, qui est celle des mycologues et des mycologues amateurs. Mais j'ai décelé vraiment ce plaisir de la connaissance chez les gens que j'ai interrogés, qui ne sont pas des scientifiques patentés, mais donc qui ont des savoirs d'observation qui sont de l'ordre de l'écologie pratique, vraiment. Donc, mon médecin, là, qui est très, très observateur de quelles sont les conditions qui font pousser les champignons, René Buffière. Voilà ce qu'il me dit. Il parle de comment les champignons sortent, dans quel ordre, après une grosse pluie. Le premier qui sort après la pluie, c'est le mousseron. 5 jours après, c'est l'oreillette, donc le pleurote du panicot pour ceux qui connaîtraient, qui ne connaîtraient pas, qui pousse sur les tiges de chardon, de panicot en fait. Et puis après, le rosé, 8 ou 10 jours après. Puis la coulmelle sort après. Et la coulmelle, elle sort un jour avant le cep. Quand on voit des coulmelles sur le bord du chemin, on peut aller au cep. Et l'orange, elle, ne sort que 8 ou 10 jours après le cep. Vous vous rendez compte? Le mousseron sort 10 heures après et l'orange un mois après. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup d'observations. Peut-être c'est valable dans un certain contexte et selon les lieux, on ne va pas trouver les mêmes champignons et pas exactement au même moment. Mais en tout cas, il y a une somme d'observations. Il faut que je revienne en arrière parce qu'il y a une diapo qui a sauté. Excusez-moi. Non, bah alors elle est partie, ma diapo. C'est pas grave. Voilà. Et donc, il y a une autre personne, Fernande, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me parle des conditions vraiment générales qui sont favorables, en particulier pour faire pousser les cèpes. Il faut compter les 15 jours après la lune jeune. On parlait tout à l'heure avec des gens de l'influence de la lune. Alors, on pourra en dire 2 mois après, mais voilà ce qu'elle me dit. Donc, 15 jours après la lune jeune. Vous savez ce que c'est la lune jeune ? Eh oui, c'est chez nous qu'on dit comme ça. De la période entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, toute cette période de croissance de la lune qui dure 14 jours. Je dis des bêtises, non. Il faut qu'il ait plu, il faut réfléchir, il faut y aller avec la tête, il faut comprendre comment. Ne va pas chercher un champignon à la cime, essaye de trouver vers le ruisseau. Il y a une bûche en travers, il a beaucoup plu, la pluie a coulé là. Elle va continuer à s'égoutter, cherche le long de la bûche, le long de l'arbre couché, cherche-le à la draie, pas à l'ubac, du côté du soleil levant, pas au froid, pas au vent du nord. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites... observations et perfectionnements au fur et à mesure qu'on connaît son territoire et qu'on... Et donc, elle, c'est vraiment une transmetteuse. Et elle, moi, vraiment, en particulier, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui m'a fait affiner ma manière de chercher les champignons. Alors, par rapport à la lune, évidemment, tout le monde pose la question. Est-ce que la lune, vraiment, ça agit sur les champignons et la pousse des champignons? Selon les régions... d'une manière générale, tout le monde dit oui dans les cueilleurs, pratiquement tout le monde. Mais on ne dit pas la même chose. Chez moi, donc, on dit en lune jeune. À d'autres endroits, on dit autour de la pleine lune. Donc ça, c'est dans les observations populaires, c'est variable. Et dans les observations scientifiques, pour l'instant, ce n'est pas prouvé du tout. Voilà, je vous laisse avec ce grand doute. plaisir de la connaissance, enfin, dernier exemple que je trouve assez joli. Ce monsieur me raconte que Mon grand-père avait planté un arbre quand je suis née. L'arbre, vous le voyez sur la photo. Il a 80 ans. Hein. L'arbre et le monsieur. Un chêne qui est dans un endroit où il n'y a pas d'autres arbres autour. Et chaque fois que mon père allait chercher des champignons et qu'il emportait des fois des trop vieux, il allait les porter sous ce chêne. Il me disait, tu verras qu'un jour. Eh bien, maintenant, il en sort. Est-ce qu'ils ont été semés? Ou est-ce que c'est venu comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 2-3 ans, il pleuvait l'été, on en a ramassé pendant peut-être 10 jours, il ressortait toujours. Donc pour la première fois, plus 70 ans après, avec 70 ans de semis, entre guillemets, de cèpe, cet arbre semble mycorhizé. Alors qu'on ne sait toujours pas mycorhiser de manière contrôlée les cèpes. Mais voilà, ça fait partie vraiment des expérimentations. Il y a beaucoup de gens qui parlaient d'expérimentations et on peut aussi arroser les bouletières, donc les endroits où vous pouvez laisser. Enfin, voilà, beaucoup d'esprit d'expérimentation. Donc voilà pour ce qui est des plaisirs de la connaissance. Puis on va finir avec la quête, le jeu, la chasse au trésor, qui est quelque chose qui nous ramène à l'enfance et qui réveille vraiment ce côté-là chez tous les mycophiles. Alors, là, à chacun son trésor d'abord. On n'a pas tous le même, on n'a pas tous la même quête. Quand on est né quelque part, me dit une des personnes interrogées, quand on est né quelque part, on est né quelque part. Les cosnards, ils cueillent les oreillettes, et les lactaires, et les grisés. Mais les cèpes, par exemple, ça ne les intéresse pas. Donc, voilà, chacun son trésor. Ces trois espèces-là sont effectivement vraiment un féodéo-calcaire. Et ben, y a une affinité particulière pour les cosnards, presque une identité. Presque, c'est vrai que moi, j'ai connu plein de petits cosnards qui jouaient avec mes enfants à l'école et qui se retrouvaient pour les anniversaires. Et à l'automne, ils nous parlaient des omelettes d'oreillettes et pas du tout des omelettes de cèpes. C'est leur identité. Après, vous avez donc le secret. Le secret de ce qu'on appelle... Alors, ça s'écrit bouletière, ça se prononce bouletière. C'est quoi une bouletière, à votre avis? C'est un endroit où boulette, en fait, en occitan, c'est le champignon. Donc, les bouletières, c'est l'endroit où poussent régulièrement des champignons, pas n'importe lesquels. Ça peut être des cèpes, ça peut être des oranges, ça peut être une bouletière aussi d'oreillettes, pourquoi pas. En tout cas, c'est un endroit vraiment où il y a une certaine fidélité des champignons. Et alors, une bouletière, ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'un peu personnel. On la trouve, on ne dit pas où elle est, et vraiment, c'est presque, elles sont nommées, ces bouletières, quoi. Le médecin là, dont je parlais, il me disait, alors là, c'est les bouletières de Émilie, dans ce coin-là. Puis là, il y avait, enfin, vraiment, il y avait presque une répartition géographique en fonction de qui explorait où et où est-ce qu'il trouvait ces bouletières, et ne communiquait surtout pas. Alors là, cette photo, c'est que on ne dit pas ses secrets, mais quand même, pour lancer le jeu, une des personnes interrogées, qui est vraiment très très, qui est tout juste à la retraite, assez jeune, lui, il lance la chasse au bolet. Il ouvre la chasse. Comment il fait? Il met un gros cèpe en bois devant sa maison. Quand il a vu que ça y est, la sortie est annoncée. Et comme ça, tout le monde est au courant. Vous voyez, c'est devant la route, là. Et tout le monde est au courant et tout le monde y va. Mais après, que le meilleur gagne. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Alors justement, après, ben, on va tromper l'ennemi quand même. On va essayer de gagner. Donc Roselyne, là, qu'on voit. Quand on me demande où c'est, je dis, dans la montagne. Toujours le jeu. Après, il y a toujours le fait de dire, il n'y en a pas beaucoup, même quand il y en a un plein panier. Quand les trompettes de la mort sortent, il y en a énormément, les girolles aussi. Et on dit toujours, quand les gens demandent, t'en as trouvé? Non, pas beaucoup. Mais on en a un plein congélateur, c'est le jeu. Quant à Jean-Pierre, l'homme aux champignons de bois, il me raconte une jolie scène. Le matin, au village, on se retrouvait chez Ponge pour le petit déjeuner à la fourchette. On mangeait de la charcuterie à 9h du matin, du fromage de chèvre, tout ça. Et avant, chacun avait des occupations. Il y en avait un qui allait voir son troupeau, l'autre à la pêche, l'autre aux champignons. Et alors, ça m'est arrivé d'arriver avec des champignons. Et je les avais trouvés à un endroit précis, mettons dans les châtaigniers. Pour ne pas dire où je les avais trouvés, je mettais quelques feuilles de chêne dans le panier. Alors j'arrivais, il y avait, mettons, mon père, un gars ou deux de Florac. On était 5 ou 6 toujours là-bas au déjeuner. Tu les as trouvés où, les champignons ? Bah, je les ai trouvés dans les châtaigniers à mon camp. Tu te fous de moi ? C'est plein de feuilles de chêne dans ton panier. Ah, ben mince ! Alors me demandez plus où je les ai trouvés. En fait, j'avais dit vraiment où je les avais trouvés. Je les avais vraiment trouvés dans les châtaigniers. Mais comme ils avaient vu des feuilles de chêne, voilà, il avait des astuces. Et puis, après, les bouletières, ben, il faut les retrouver. Ce n'est pas toujours facile. Enfin, certaines sont faciles à retrouver, d'autres moins. Alors, Fernande, elle avait une astuce. C'était déjà sa grand-mère qui avait cette astuce-là. Elle mettait des petits cailloux blancs. C'était son petit signe à elle. Et à un moment donné, elle les a indiqués à sa fille, à sa petite-fille. Et puis, ce truc continue à se transmettre dans sa famille. Donc voilà ce qu'elle raconte. Moi, je prends plaisir. Je leur dis, je vais être à un âge où je vais m'arrêter d'aller aux champignons parce que je ne voudrais pas me faire un col du fémur dans la montagne. Et maintenant, je dis aux enfants, peut-être que la pierre blanche que mamie a mise quand elle était enfant existe toujours. Mais si elle n'y est pas, mettez une pierre blanche, ça sera la vôtre. Et comme ça, c'est la pierre blanche qui se perpétue. C'est un signe. C'est comme le petit pousset qui mettait ses pierres blanches pour se retrouver. Et alors après, il y a la découverte du trésor. Alors là, on a Émeric qui est garde au parc national, qui s'occupe d'une châtaigneraie et il a trouvé un champignon qui est un vrai trésor pour beaucoup de gens, qu'on appelle chez nous boulet Daniel. Boulet, ça veut dire champignon. Daniel, ça veut dire d'agneau. Moi, quand des vieux ont commencé à me parler du boulet Daniel, j'ai cherché c'est quoi ce champignon. Ils ne pouvaient pas m'en montrer. Ils m'en parlaient un peu au passé en me disant qu'on n'en trouvait pas souvent. Et donc, pour moi, c'est devenu une quête. Le boulet Daniel, c'était mon trésor à trouver aussi. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps à trouver quel était ce champignon boulet Daniel, parce qu'il n'y avait rien marqué sur Internet à boulet Daniel. Et finalement, grâce à un ami mycologue, je lui en ai parlé, je lui ai décrit ce qu'on m'avait dit dessus. Il m'a dit, oh, Grifola frondosa, celui qu'on appelle poule des bois, qu'on appelle maitake au Japon, et donc qui est le polypore en touffe. Et donc, cette quête-là, moi, j'en avais parlé autour de moi. Je disais, si vous trouvez dans les vieilles châtaigneraies ce fameux champignon boulet Daniel, dont les vieux disent tant de bien, dites-le moi, j'aimerais le voir, le photographier. Et voilà, un jour, Émeric m'envoie un mail, me dit, si tu peux venir voir, j'ai un beau boulet Daniel, si tu veux, on pourra le goûter ensemble et tout. Donc voilà, la découverte du trésor. Et donc, comme je vous ai dit, au Japon, il s'appelle le maitake, ce qui voudrait dire le champignon qui danse ou le champignon qui fait danser. De bonheur de le trouver. Il paraît même qu'au Japon, sur l'île d'Hokkaido, quand on trouvait un maitake, au début, il est tout petit au pied de l'arbre, puis il va grossir pendant plusieurs semaines, jusqu'à atteindre 15 kilos. Et donc, on faisait un grand trait autour pour l'encourager à pousser gros comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait dans les Cévennes, mais dans les Cévennes, j'ai entendu, à chaque fois, c'est des vieux qui en parlaient. Les jeunes, ils ne connaissent plus. Ils reconnaissent maintenant parce que je leur en ai reparlé. Et du coup, les vieux, ils repèrent sur certains châtaigniers qu'ils ont repérés, c'est une bouletière aussi d'une certaine façon, ils repèrent le moment où ce boulet Daniel est né, Ils disent vraiment, il est né là. Et puis ils le regardent grossir de semaine en semaine, ils vont le surveiller, et vient le jour où ils vont le cueillir, parce que ça y est, il est assez gros, et après il va péricliter. Et on m'a raconté aussi deux personnes qui avaient repéré le même dans le village, sans savoir que l'autre l'avait repéré, et puis il y en a un qui l'a cueilli en premier, et voilà, ça fait parfois des grosses disputes. Donc, et dernière anecdote à propos de ça, pour vous dire la valeur de ce trésor aux yeux des connaisseurs, le mycologue que je vous ai présenté, il faisait des expositions de mycologie chaque année à Florac. Je me souviens d'une année, on exposait à la Genette Verte. Il y avait les Floracois qui buvaient leur verre au café du coin. Et là, il y avait deux vieux qui parlaient et qui rouspétaient dans leur barbe. Ça vaut rien, leur expo. Ils n'ont même pas mis le boulet d'Aniel. Et lui, il ne savait pas ce que c'était que le boulet d'Aniel. Et c'est moi qui ai fini par lui dire « Ah bah oui, j'ai cherché beaucoup, c'est ça. » Et il dit « Ah d'accord, il n'avait pas trouvé de quel champignon il parlait. » Donc, certaines valeurs. Et c'est vrai qu'il est très bon. Et en plus, c'est un champignon médicinal de premier ordre, ce qui n'était pas forcément conscientisé par les Cévenols. Et pour finir... par rapport à cette découverte d'un trésor. Elle, c'est une des personnes interrogées qui aime beaucoup aller aux champignons. Elle est hollandaise aussi. Et elle habite la moitié du temps dans les Cévennes. Et elle est c'est une célèbre poétesse de son pays. Elle s'appelle Myriam Van Hy. Elle publie des poèmes. Et elle a écrit un très beau poème sur les champignons que j'ai mis au début du livre. Et elle parle de la découverte du trésor avec une métaphore. Parfois, les champignons sont une métaphore pour les mots, pour les poèmes. Parce que parfois, on peut être à la recherche d'un mot convenable. On cherche un mot, une fin, et on ne la trouve pas. Et on le trouve par hasard, et les champignons aussi. Même quand on cherche, ça arrive de ne pas trouver. Et quand tu en trouves, ça te donne un sentiment de bonheur. Et quand on a pu trouver une bonne fin pour un poème, ça aussi, ça te rend heureux. Ça te rend heureux comme rien d'autre ne peut te rendre heureux. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça, on est content d'avoir trouvé quelque chose. Donc, voilà un peu les diverses raisons d'aller courir les bois, les prés, et donc de nourrir cette mycophilie qui est quand même une partie intégrante de la relation aux champignons des Cévenols et des Cosnards. Et alors, pour conclure, je ne vous ai pas beaucoup parlé de santé, hein, alors qu'on est dans des journées autour de forêt et santé, mais ça ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de santé derrière tout ça. Alors, la seule évocation d'utiliser des champignons pour se soigner que j'ai eu dans toutes ces enquêtes-là, c'est les clavers jaune-orange, donc c'est Ramaria, qui ont, pour certaines espèces, la réputation d'être purgatifs. Et en fait, c'est la seule évocation que j'ai eue, c'est une dame qui me disait « Ma tante, elle était tout le temps constipée, elle mangeait ces champignons-là quand elle avait besoin de se nettoyer un peu. » Voilà. Donc, unique... évocation de l'usage médicinal des champignons. Mais pourtant, on trouve abondamment ce champignon que vous connaissez peut-être, le Trametes versicolor, le polypore à couleur variable qui fait partie des grands champignons médicinaux beaucoup utilisés au Japon contre le cancer. Ce second-là, que je trouve assez souvent, qui est le polypore, le ganoderme, non pas luisant celui-là, mais aplani, qui est assez marron et qui pousse sur les vieux arbres mourants, qui est un super champignon médicinal, mais personne l'observe, le remarque. On trouve des ganodermes luisants aussi sur les vieux chênes verts dans les Cévennes. Peu de gens le remarquent. On trouve du chaga, le Inonotus oblicus, qui est... célèbre, que vous pouvez acheter à grand prix sur Internet pour défendre l'immunité, etc. Ben, y en a dans les bétulets assez élevée et soumise au froid. Et ce champignon-là, que j'ai vu quelques fois, qui est devenu rare, qui est l'hérissium, le champignon hérisson, qui était... Les vieux en parlent comme d'un champignon qu'on mangeait autrefois, mais qu'on ne trouve plus très souvent. Bon, qui est un grand champignon médicinal, très, très bon pour le cerveau. Mais donc, tout ça n'est pas réellement valorisé, traditionnellement en tout cas. Mais on peut dire quand même que la petite lumière qui souvent s'allume dans les yeux de mes interlocuteurs quand ils parlent des champignons me fait soupçonner qu'il n'y a pas que les bêta-glucanes, les polysaccharides et les polyphénols dont je pense, Pierre, tu dois parler dans ta conférence que j'espère entendre demain, qui aient des vertus bienfaisantes chez les champignons. Il y a, Claudie... C'est une vieille dame qui va aux morilles tous les printemps, qui a vraiment une relation très profonde avec ses morilles, qui leur parle. Je suis allée cueillir avec elle et je la voyais leur parler, leur dire « Oh, t'es coquine, toi !» Et puis au moment de les cuisiner, « Bon, allez les filles !» Au moment de préparer l'omelette. Bon. Donc ça, pour moi, c'est... même si elle met beaucoup de crème dans son omelette, je pense que c'est quand même beaucoup de santé pour elle. Ça, c'est encore un boulet d'Aniel, qui fait vraiment partie de... C'est toujours les vieux qui vont ramasser les boulets d'Aniel, traditionnellement, quoi. Et c'est quelque chose qui maintient jeune, je pense, parce qu'il faut quand même souvent crapahuter dans la châtaigneraie pour aller les ramasser. Et puis ce monsieur-là, il est mort maintenant, mais lui, il ne dérogeait pas d'aller je sais plus si c'était le 16 mai, c'était toujours à la même date, quelqu'un parlait de ce rendez-vous-là, sur le rebord de l'Aigoual pour ramasser des gyromitres. Et rien ne l'aurait empêché de manger ces gyromitres qui sont passés de esculenta, excellent, à dangereux, mortel. S'ils sont mal consommés, en trop grande quantité, mal cuits, etc., ils sont mortels. Mais lui, son fils lui disait « Mais arrête de manger ça, papa, c'est mortel !» Ben non, il fallait qu'il emmène son père qui tenait à peine debout. J'étais avec eux pour cette cueillette-là. Le papa, il ne tenait pas debout, il avait sa canne, mais il allait ramasser ses gyromites jusqu'à sa mort. Vraiment. Donc je pense que voilà, c'est un des aspects qu'on peut mettre derrière le terme « champignon et santé » aussi. Même si les gyromites, vaut mieux plus en manger. Hein, on a bien compris. Mais... voilà. Et donc, dernière évocation, cette image-là de ces gens avec qui je suis allée aussi ramasser, où on voit aussi ce sentiment... Enfin, notamment avec eux, j'ai vraiment ressenti ce côté observer plein d'autres choses que les champignons. Et ce lien intime à la nature, il fait vraiment partie aussi. C'est de notre santé profonde, au contact d'autres vies que les nôtres. Voilà, je termine avec ce petit haïku. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, il y a le temps pour éventuellement... Très rapidement, 5 minutes. Alors, les vieux, pas trop. Même si des fois, je leur souffle, oui, ça fait du bien. Le boulet d'Aniel, ils n'avaient pas besoin de savoir que c'est le maïtake et que c'est anti-cancer et tout ça, pour l'aimer beaucoup. Et la valeur, elle est déjà là, sans... Après, évidemment, pour les jeunes, y a, parmi mes informateurs, il y a des gens jeunes aussi, notamment le premier ganoderme luisant, le premier rachis qu'on met. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Je faisais un atelier teinture végétale et c'est une fille qui me l'a apporté en disant « Oh, ça doit faire des couleurs, ce truc-là ». Elle l'avait trouvé par hasard, elle le trouvait beau. C'est une fille qui fait de la sculpture et du coup, elle était... un peu fascinée par ce champignon sans le connaître. Puis quand elle a vu mes yeux briller, quand elle me l'a amené, j'ai dit oh bah, moi j'en ai encore jamais trouvé, je sais qu'il y en a, mais... et je lui ai expliqué ce champignon, bah, depuis elle se fait des teintures double extraction avec son reishi, et elle a une relation au Reishi, elle le trouve, elle a vraiment une relation particulière avec ce champignon. Donc, bien sûr, c'est moins les anciens qui restent vraiment avec leur truc, tu les fais pas déroger, tu vois, il y a des gens, tu les fais plus bouger de ce qu'ils ont construit vraiment, comme ce monsieur avec son gyromite toxique. Mais donc voilà, les médicinaux, oui. Et d'ailleurs, ça pose un petit problème d'en parler, de dire. Alors là, il y a une autre raison pour pas donner ses coins. Tu vois, si quand on trouve un Grifola frondosa, c'est quand même pas mal recherché par les gens qui vont sur Internet. Pareil pour le chaga. Il y a quelques coins à chaga. Bon, c'est Émeric, le garde du parc, qui l'a trouvé en premier. Et il y a eu un article dans Midi Libre pour dire qu'il y a des chagas dans le parc. Et il l'assume bien. Il dit non, mais il ne faut pas en faire un secret, si bien que les gens le sachent. Ce n'est pas ça qui va le faire disparaître. Bon, voilà, ça se discute. Moi, en tout cas, ouais, des fois, je suis un peu embêtée de donner ce coin à chagas. Si tout le monde y va... Il y a une sorte d'engouement très fort avec tous les cancers, etc. Tout le monde a envie de trouver ces champignons anti-cancer, quoi. Sans forcément... Après, il y a le problème de l'accompagnement médicinal avec tout ça, du fait que les médecins ne sont pas toujours très chauds pour accompagner des maladies graves avec tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une question très complexe et ce qu'on fait savoir a des implications, quoi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais en tout cas, ça m'interroge. De protection, comment ? Détail.
Je disais que je suis tombé sur pas mal de littérature sur l'Europe centrale avec de l'utilisation de ganodermes, sculptés ou non sculptés, en protection. Portés sur soi, mis dans la maison, en évidence.
Non, par contre, alors c'est pas de la protection, mais c'est autre chose. Des gens font des petits... des petits champignons sculptés, notamment avec les loupes, les petites loupes qu'il y a sur les points de grève des châtaigniers, tu sais, t'as des boules qui font comme des petites loupes. Et donc ça, il y en a qui vraiment mettent beaucoup de soin à ramasser ça, le sculpter, le peindre. J'ai pris des photos dans le muret du village avec un peu de mousse. C'est posé là, tu vois. C'est pas juste du. Pour moi, c'est pas juste du décorum. Il y a un peu autre chose derrière. Alors, on peut pas parler de protection, mais d'accompagnement. C'est vraiment une histoire de en compagnie. Enfin, de différentes manières, ils sont proches. Comme le gros champignon. Là, c'est pas un rituel de protection, mais c'est un rituel quand même. Hein. Mais il y a sûrement plein de petites subtilités comme ça encore à observer. Merci.
Merci beaucoup.